à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide et Claire Morin-Gibourg en votre compagnie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique. Les titres en ce mardi 28 mai 2019.
Grève générale au Soudan pour accroître la pression sur l'armée plus de 6 semaines après le coup d'État contre Omar el-Béchir.
Pete Mutharika réinvesti à la tête du Malawi pour un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire contestée par l'opposition.
Dans la partie magazine, plein feu sur une marche au Nigeria pour dénoncer les tueries de masse qui continuent dans le pays.
Pourquoi le gouvernement n'écoute pas le cri des populations?
Également dans l'actualité, le centre des États-Unis ravagé par des tornades. Au moins 2 personnes tuées dans l'Oklahoma et des millions d'abonnés sans électricité dans l'Ohio.
Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes environ. Mais d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, les églises catholiques et protestantes réclament des élections locales. Elles ont lancé une pétition aujourd'hui pour demander la tenue de ce scrutin, sans cesse reporté depuis 2006. Ces élections étaient prévues en mars dernier, mais après un nouveau report, aucune date n'a été fixée. La pétition doit être soumise à signature dans les paroisses pour une durée non précisée. Les deux églises dénoncent une démocratie locale confisquée par des dirigeants nationaux et provinciaux, disent-elles, sans mentionner de date pour la tenue du scrutin.
Toujours en RDC, 3 personnes sont mortes dans la nuit dernière lors d'affrontements entre l'armée et des coupeurs de route à la sortie de Kinshasa, le long d'un axe routier vital. D'après un élu, il y a eu un braquage sur la nationale numéro 1 dans le village Yaki. Dans les échanges de tirs, le chauffeur d'un bus et une commerçante ont été tués et une 3e personne a succombé à ses blessures à l'hôpital. Il s'agit de la 15e attaque de ces coupeurs de route depuis le début de l'année.
Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé ce mardi à une gouvernance concertée lors de l'ouverture à Dakar d'un dialogue national boycotté par une partie de l'opposition. Ce dialogue, promis par Macky Sall lors de sa prestation de serment pour un second mandat le 2 avril dernier, a débuté par une série de discours dans la salle des banquets du palais présidentiel en présence de leaders religieux, des représentants de la majorité et de certains opposants et de la société civile dont les partenaires sociaux. Davantage un peu plus tard dans la tranche magazine.
Au Soudan, des milliers de manifestants observent une grève générale de 2 jours pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils. Nous faisons le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les fonctionnaires, employés des banques et d'entreprises privées ont répondu à l'appel à la grève générale. Pour les grévistes, seul un gouvernement civil pourra sortir leur pays de la crise. À Khartoum, il y a encore eu des manifestations. Des centaines de travailleurs du port Soudan, pôle économique vital, ont aussi rejoint la grève de 48 heures. Des centaines de passagers ont été bloqués à l'aéroport de Khartoum. Les compagnies soudanaises Badr, Tarko et Nova ont suspendu leurs vols. Egypt Air a aussi annulé ses liaisons. De nombreux passagers ont été bloqués à la gare routière de la capitale. Cette grève est la première étape, a averti Youssef Mohamed, un protestataire. Les manifestants menacent de faire monter la pression d'un cran vers une grève générale illimitée. Les divergences entre militaires et civils portent sur la composition du futur conseil souverain qui doit assurer une transition de 3 ans. Chacun réclame une majorité des sièges.
Au Malawi, le chef de l'État, Pete Mutharika, a prêté serment aujourd'hui à Bentaye après sa réélection à la présidentielle du 21 mai, avec moins de 160 000 voix d'avance sur son principal rival, Lazarus Chakwera. Le président appelle les perdants à accepter les résultats du scrutin entaché de fraude d'après l'opposition. Compte rendu, Raissa Girondin.
Je tiens à féliciter les autres candidats qui ont participé à ces élections, mais ils doivent accepter qu'il y a seulement un vainqueur, a déclaré Peter Mutharika dans le stade Kamuzu lors d'une cérémonie organisée au lendemain de l'annonce de sa victoire. Il a été réélu de justesse. Les résultats officiels de la présidentielle annoncés par la commission électorale le créditent de 38,57% des suffrages devant l'opposant Lazarus Chakwera avec 35,41% des voix. La proclamation des résultats avait été suspendue samedi par la Haute Cour de justice en raison d'accusations de fraude de l'opposition. Son principal rival, M. Chakwera, n'a toujours pas réagi ce mardi à l'annonce de la victoire du chef de l'État au pouvoir depuis 2014. Au lendemain des élections, la société civile locale et les observateurs s'étaient réjouis de la bonne tenue du scrutin. Les élections sont terminées, il est temps de s'unir et de développer ce pays, a ajouté le chef de l'État, âgé de 78 ans.
Au Bénin, plus de 80 prévenus ont comparu devant le tribunal de première instance de Cotonou. Ils comparaissent pour les violences post-électorales survenues les 1er et 2 mai derniers. Des précisions avec notre correspondante sur place, Ginette Fleur Adandé.
Les charges retenues contre la centaine de jeunes présentés au tribunal de Cotonou restent l'attroupement armé ou encore trouble à l'ordre public. Mais une infraction aura fait son entrée dans le jargon juridique du charlatanisme contre l'État béninois. Un charlatan, que vient-il faire là? S'est demandé l'un des avocats. Après plusieurs heures d'audience, la Cour s'est déclarée incompétente dans la majorité des dossiers, au grand mécontentement des avocats de la défense. C'est le cas de Maître Kato Atita qui a déclaré que ce qui se passe, le fait que la Cour se déclare systématiquement incompétente, n'a aucune conformité avec le code de procédure pénale. « Nous avons une dignité professionnelle », a-t-il déclaré devant la Cour. C'est suite à une fausse information distillée le mercredi 1er mai 2019 sur les réseaux sociaux faisant état d'une tentative d'arrestation de l'ex-président Boniaï que des violences ont éclaté faisant plusieurs morts et d'énormes dégâts matériels. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
À Madagascar, très faible participation législative. Les Malgaches ont en effet boudé les urnes hier. Le taux de participation est estimé à 31%. La commission électorale du pays déplore une crise de la démocratie et le désintéressement des électeurs pour l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Les législatives étaient organisées 5 mois après le deuxième tour de la présidentielle, remporté par André Radzuel devant son éternel rival, Marc Ravalomanane. Nous y reviendrons dans le segment magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, ici aux États-Unis, les services météo mettent en garde contre les risques de tempêtes dans le centre du pays, y compris la possibilité de violentes tornades. Morgane Guerriec.
Une série de tornades a été signalée la nuit dernière dans l'est de l'Indiana et l'ouest de l'Ohio. Des orages près de Dayton dans l'Ohio ont endommagé de nombreuses habitations et laissé des routes impraticables. Pour l'heure, aucun décès n'a été signalé. Des tornades sévissent dans le centre des États-Unis depuis la semaine dernière, notamment dans le Missouri, l'Oklahoma, l'Iowa et l'Indiana. Des températures particulièrement élevées ont par ailleurs été enregistrées dans plusieurs villes du Sud. Au cours du week-end, Augusta, en Georgie, a atteint son record de 141 ans, alors que la température a atteint 98 degrés Fahrenheit. Wilmington, en Caroline du Nord, a atteint 100 degrés pour la première fois de son histoire. En revanche, au lieu du soleil et de la chaleur, la Californie a été frappée par une étrange tempête de neige à la fin de ce mois de mai, censée marquer le début de l'été.
Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, se rend cette semaine au Maroc et en Jordanie en quête d'appui pour son plan de paix israélo-palestinien. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump affiche sa volonté de parvenir à l'accord ultime entre Israéliens et Palestiniens, espérant réussir là où tous ses prédécesseurs, républicains comme démocrates, ont échoué.
Le ministère des Affaires étrangères iranien a estimé aujourd'hui qu'une médiation avec les États-Unis n'était pas nécessaire actuellement. Les autorités iraniennes ont minimisé les risques d'un affrontement militaire avec Washington alors que la tension monte avec le déploiement des forces américaines au Moyen-Orient.
En Syrie, les bombardements du régime syrien continuent. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 10 civils, dont des enfants, ont été tués ce mardi et un hôpital a été touché dans la province d'Idleb, dernier bastion djihadiste dans le pays.
En Turquie, l'association du barreau d'Ankara a affirmé qu'au moins 5 ex-employés du ministère des Affaires étrangères avaient été torturés, et ce, après leur arrestation pour des liens présumés avec le putsch manqué de juillet 2016. Ces allégations ont été démenties par la police d'Ankara.
Et puis, à l'occasion de la célébration des 100 ans de relations diplomatiques entre la Russie et l'Afghanistan, de hauts dirigeants talibans et des opposants politiques afghans se sont rencontrés à Moscou. Les talibans sont vraiment attachés à la paix, mais pensent que l'obstacle à la paix doit d'abord être levé, a déclaré Mullah Baradar, le leader politique du groupe rebelle taliban, à l'occasion d'une rare apparition devant les caméras de télévision.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir.
Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Mali va introduire une taxe de 0,2% sur les importations pour financer le budget de l'Union africaine. Cette nouvelle taxe s'inscrit dans le cadre du principe adopté au sommet de Kigali en 2016 pour réduire la dépendance de l'Union africaine à des financements extérieurs et la rendre capable de financer 100% de son budget ordinaire, 75% du budget programme et 25% du budget des opérations de maintien de la paix. Si cette nouvelle orientation fiscale est appliquée par les 55 pays africains, elle pourrait générer jusqu'à 1,1 milliard d'euros par an. Le gouvernement kényan veut obtenir 750 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce nouveau prêt devrait être négocié sous la forme d'un appui budgétaire. Il permettra de soutenir les réformes politiques et institutionnelles du Kenya tout en finançant des programmes visant à créer une croissance inclusive. Pour terminer, l'Égypte veut multiplier par 10 le capital minimum des banques commerciales. De 500 millions de livres actuellement, il passera à 5 milliards de livres. Le capital minimum des filiales de banques étrangères passera quant à lui de 50 à 150 millions de dollars. Les banques disposeront des délais de 3 ans pour se conformer à ces nouvelles exigences. Selon la Banque centrale égyptienne, cette mesure vise à renforcer la solidarité financière des banques égyptiennes pour faire face aux risques et résister à la concurrence au niveau régional.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
Naby Keïta ne jouera pas la finale de la Ligue des Champions.
Oui, le milieu de terrain guinéen de Liverpool est forfait pour la finale samedi contre Tottenham. En raison d'une blessure aux adducteurs, l'annonce a été faite par son entraîneur Jürgen Klopp, qui a confié que les Reds vivaient un moment de pure excitation avant leur deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Après sa défaite contre le Real Madrid l'an passé, le manager allemand a estimé que son équipe avait les moyens de s'imposer. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée d'avoir à nouveau notre chance. Il s'agit de gérer la situation et jusqu'à présent, nous avons maîtrisé nos émotions, a-t-il déclaré.
Toujours en football, Yacouba, Marseille engage André Villas-Boas pour 2 ans.
Et oui, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de l'entraîneur portugais de 41 ans qui prendra ses fonctions à partir du 1er juillet en remplacement de Rudy Garcia. Son club, depuis un an et demi, l'ancien coach de Porto, Chelsea, Tottenham et du Zénith Saint-Pétersbourg a gagné la Ligue Europa en 2011 avec Porto. Andrés Villas-Boas est un entraîneur à la fois jeune et déjà très expérimenté. S'est félicité dans un communiqué le président marseillais Jacques-Henri Hérault, vantant les mérites d'un homme qui possède une parfaite connaissance des exigences du très haut niveau. Finaliste de la Ligue Europa l'an passé, Marseille a fini dernier de son groupe cette année. Le club olympien a été éliminé dès le premier tour des 2 coupes et n'a pas fait mieux qu'une 5e place en championnat.
Quant à l'Espagnol Xavi, il devient entraîneur du club qatari d'Al-Sadd.
Et oui, l'ex-joueur vedette du FC Barcelone a été nommé entraîneur d'Al-Sadd 8 jours seulement après avoir joué le dernier match de sa carrière sous les couleurs du club qatari. Âgé de 39 ans, Xavi Hernandez, 8 fois champion d'Espagne avec le Barça et 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 133 sélections, était arrivé à Al-Sadd en 2015 en tant que joueur. Il succède au poste d'entraîneur au Portugais Jesualdo Ferreira en fin de contrat.
Et puis Golden State fera sans Durant pour le premier match de la finale NBA.
Oui, Jacques, le double champion en titre Golden State a annoncé qu'il sera privé de Kevin Durant pour le premier match de la finale contre Toronto qui débute ce jeudi. Durant, élu meilleur joueur des 2 dernières finales NBA, a manqué les 5 derniers matchs de son équipe en raison d'une blessure au mollet droit subie durant le match numéro 5 de son duel des demi-finales de conférence face à Houston. En son absence, Golden State a remporté ses 5 derniers matchs et éliminé Houston 4-2, puis Portland 4-0. Les Warriors vont disputer leur 5e finale consécutive et vise un 4e titre en 5 ans.
Yacouba Ouedraogo, je vous remercie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Claire Morin-Gibourg et Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique.
Le président sénégalais Macky Sall a lancé ce mardi le dialogue politique qu'il avait promis au lendemain de sa réélection pour un mandat de 5 ans en février dernier. La classe politique, les syndicats, les communautés religieuses et des associations représentant différentes couches sociales y sont représentées. Mais l'ancien président Abdoulaye Wade a boycotté l'appel de son successeur. Pour une analyse sur ce dialogue politique, Abdourahmane Dia a joint à Dakar le directeur de e-radio et ITV, Alassane Samba Diop.
C'est un dialogue national, donc toutes les couches de la population sont représentées, les syndicats, les familles maraboutiques, les enseignants, les partis politiques sont représentés entre autres, pour venir dire chaque parti ce qui ne va pas, ce qu'il croit être la meilleure chose à faire. Le seul bémol, c'est que le Parti démocratique sénégalais, quand même, de Maître Abdoulaye Wade, qui était une force politique majeure dans ce pays, n'est pas venu. Le PDS a décliné à la dernière minute ce dialogue politique en posant des conditions. Parmi celles-ci, la révision du procès de Kari Wade et la libération de Khalifa Sall qui est en prison. Mais il y a aussi des dissensions au sein du Parti démocratique sénégalais. Omar Sarr, le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, lui est venu participer au dialogue politique.
Si le PDS n'est pas là, en tout cas le président Abdoulaye Wade n'est pas là, trois candidats malheureux à la présidentielle ne sont pas représentés également, est-ce que cela ne pose pas problème?
Oui, ça peut poser problème. Alors, le Parti démocratique sénégalais, c'est quand même un parti qui est très important. Les autres candidats à la présidentielle sont représentés par le FRN de Mamadou Diouf Doukoura, qui représente un peu ce qu'on appelle le Idriss Seck, entre autres. Monsieur Abdoulaye Mbaye et les autres là ont voulu être des candidats, n'ont pas pu être des candidats parce qu'ils n'ont pas dépassé les parrainages. Donc ils ne peuvent pas être considérés comme étant des candidats, c'est des potentiels candidats. Donc voilà la situation aujourd'hui du dialogue politique.
Madame Wardini, la mairesse de Dakar, a plaidé le cas de Khalifa Sall, l'ancien maire de la capitale.
Mais je ne sais pas ce qui va se passer. La réponse que le président de la République a donnée à cela est que la procédure se poursuit. Et il ne peut pas intervenir dans un processus aujourd'hui qui se poursuit au niveau de la justice. Après, il verra, parce qu'il a aussi la prérogative de gracier Khalifa Sall. Amnistier, c'est l'Assemblée nationale qui doit le faire, parce qu'il faut une loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée nationale. Mais connaissant au Sénégal que souvent que la majorité au Parlement est détenue par l'exécutif, souvent ça passe comme lettre à la poste. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Si le premier dialogue qui a été mis en place avait abouti à une grâce présidentielle pour Kari Wade.
Est-ce que des questions liées à la jeunesse, à l'éducation, à l'emploi ne risquent pas d'être reléguées au second plan?
Oui, c'est ça, c'est la grande inquiétude au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, on fait trop de politique, on parle trop de politique, les questions essentielles sont souvent laissées en rade ou bien sont juste effleurées. Mais fondamentalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Le Sénégal a besoin d'une refonte de son éducation. Le Sénégal a besoin aujourd'hui que l'éducation donnée à nos enfants s'adapte aux réalités du monde.
Le journaliste et patron de presse, Alassane Samba Diop.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Nigeria, des ONG qui militent pour mettre un terme aux affrontements violents dans le pays se sont réunies ce mardi à Abuja, dans d'autres villes du pays, pour observer ce qu'elles appellent le jour de deuil national, en mémoire des victimes tombées depuis le début de la crise dans le Nord-Est. Reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
Ils étaient quelques centaines à descendre dans les rues d'Abuja pour dénoncer la violence qui continue de faire des victimes dans le pays. Les terroristes dans le nord-est, les affrontements intercommunautaires et le conflit entre éleveurs et agriculteurs dans le centre. Plus d'une centaine d'ONG continuent de faire pression sur les autorités fédérales pour mettre fin à la crise. Chidi Odinkalu, activiste, est l'un des dirigeants de ces organisations.
Demain, c'est la journée de la démocratie. C'est le jour que nous célébrons notre pays et nos institutions. Aujourd'hui, c'est le jour que nous avons choisi pour penser à ceux qui ne seront pas là pour célébrer avec nous. particulièrement ceux qui ne seront pas avec nous parce qu'ils ont été victimes des violences chroniques dans notre pays.
L'événement se tient pour une seconde fois après l'année dernière et connaît une grande mobilisation partout dans le pays. Ozioma Izuora est avocate, elle est venue se joindre au mouvement.
Si les gens peuvent sortir sous le soleil ou probablement sous la pluie s'il pleuvait, pourquoi le gouvernement n'écoute pas le cri des populations? Si le gouvernement veut que tout finisse aujourd'hui, ça va prendre fin aujourd'hui. Mais il ne pense pas au pays et aux Nigériens.
Dans le premier trimestre de l'année, plus d'un millier de Nigériens ont trouvé la mort dans les violences à travers le pays, selon la police. Les manifestants pacifiques qui sont sortis vêtus de noir et brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Arrêtez les tueries », entre autres, se sont par la suite dirigés vers le ministère de la Justice pour demander que justice soit faite. Adebayo Raphaël est un activiste des droits humains au Nigeria.
Ce n'est pas bon que nous vivions dans un pays où la brutalité policière devient de plus en plus grave. Ce n'est pas normal que nous vivions dans un pays où nous avons des chefs de services de sécurité, mais le nombre de morts continue d'augmenter. C'est très mauvais aussi que nous ayons des dirigeants qui devraient avoir comme priorité la sécurité des populations, mais qui ne font pas cela.
Cette manifestation se tient à la veille de l'investiture du président Muhammadu Buhari, réélu pour un second mandat à la tête du Nigeria. Buhari avait été élu il y a 4 ans sur la promesse de vaincre le groupe Boko Haram. Et si le gouvernement a plusieurs fois annoncé avoir affaibli le groupe, la situation reste encore confuse dans le nord-est du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, 2 officiers de police et 1 agent de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, sont en garde à vue depuis le 25 mai. Selon les autorités judiciaires, ces prévenus sont responsables de la mort d'un jeune arrêté et détenu dans leur commissariat. Une situation que déplore la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Notre correspondant à N'Djamena, André Komadjingar.
L'affaire remonte au 25 mai dernier où Yahya Daoud et Abdoulaye Awad, 2 jeunes suspectés d'avoir commis un meurtre, ont été appréhendés par la police du CSP7, le commissariat de sécurité publique. Lors de l'interrogatoire sur instruction du commissaire primaire Jean Abdelkirim Hassan, les 2 jeunes hommes auraient subi des sévices corporels et autres actes de torture entraînant la mort de l'un d'entre eux dans l'enceinte du commissariat la même nuit. Cette situation intervient après la mort dans des conditions similaires du jeune Baïgoutim Richard le 8 mai après 6 jours de détention dans les locaux de la police. Une situation que dénonce l'avocat Médaï Guérimbaï, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Je crois que c'est extrêmement grave. Dans un pays qui se veut démocratique, les partenaires du Tchad financent les services de sécurité et les forment pour que dans l'exercice de leur fonction, qui est une mission délicate, que la personne humaine soit respectée. Malheureusement, on arrive à constater, et ça de manière systématique et même répétée, que des jeunes soient pratiquement assassinés dans les commissariats de police. On va attendre combien de personnes pour que l'État puisse dire non, on ne peut pas tolérer des faits pareil dans des commissariats de police qui sont des lieux de sécurité pour les citoyens. L'histoire, c'est qu'on a envie de torturer. On pense que l'autre n'a pas le droit à la vie. Mais c'est grave.
Le premier substitut du procureur de la République, Nedo Gérard, rassure l'opinion publique que les 2 officiers de police et le chef d'antenne de l'ANS impliqués dans cette affaire vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.
Ils vont répondre des actes de torture qui sont prévus et punis par le titre 4 du code pénal et plus précisément les dispositions de l'article 323. Ce sont des faits graves. Il va falloir que la justice puisse apporter une réponse digne de nom. Laquelle réponse nous permettra de restaurer l'ordre qui est bafoué, de restaurer la dignité humaine, sinon de faire valoriser les droits de l'homme qui sont le socle de notre société.
Le premier substitut du procureur de la République, Nedo Gérard, met en garde les officiers de police judiciaire auteurs de sévices corporels.
Ces derniers temps, les officiers de police judiciaire sont taxés de faire l'objet, sinon d'être les acteurs des sévices corporels. Il va falloir que ceux-là qui, peut-être par le passé, par mégarde, parce qu'il leur a été confié un morceau de pouvoir et qu'ils en exagèrent, il va falloir falloir que ceux-là réalisent que dorénavant, tout acte de torture, tout acte de sévice qui adviendrait exposera les auteurs à des sanctions dignes de nom.
L'avocat du prévenu Abdelkrim Hassan, commissaire premier adjoint du CSPCT, affirme à VOA Afrique qu'il va se prononcer après la première comparution de son client à l'audience. André Kogmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Raissa Girondin, votre compagnie, en direct à 18h, en temps universel. Que pensez-vous de la façon dont on traite les gens dans les commissariats? C'est la question posée ce soir, dans À votre avis. Au Tchad, un citoyen est mort à la suite de tortures dans un commissariat samedi dernier. C'est le deuxième cas de décès dans un commissariat de la capitale en moins d'un mois. Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
À Madagascar, les électeurs ont boudé hier les élections législatives. Le taux de participation est estimé à 31%. Les résultats sont attendus à la mi-juin. Ces législatives sont organisées 5 mois après le deuxième tour de la présidentielle, remporté par André Radzuel devant son éternel rival Marc Ravalomanane. Comment expliquer cette faible participation des Malgaches? Idriss Fall a joint Antananarive, notre confrère Randy Denis.
Il n'y avait pas beaucoup de mobilisation pour les législatives de lundi. Je l'explique par une certaine désaffection des électeurs. Les gens, ils ont un peu marre, entre guillemets, de ce qui se passe à Madagascar. Déjà, les gens, ils sont déçus des politiciens. Hein, en 60 ans, pratiquement, d'indépendance, et rien ne bouge. Ou pire, Madagascar s'enfonce dans la pauvreté, alors que Madagascar est l'un des pays les plus dotés par la nature, donc de richesses, de beaucoup de richesses. Et puis, les gens aussi, ils ont un peu marre aussi de ce duel, de ce face-à-face interminable entre André Radjuel, le président actuel, et Marc Ravalomanane, l'ancien président. Un duel politique qui dure depuis 10 ans. On se souvient que Marc Ravalomanane, en 2009, donc exactement 10 ans, a été renversé par André Radjuel. Et donc, bien sûr, il y avait le règne de Rajaonar Mapean entre 2013 et 2018, mais c'était finalement qu'une petite parenthèse.
Mais on croyait que l'élection présidentielle allait permettre de régler justement cette crise qui dure depuis 2009.
C'est ce qu'on croyait aussi, mais on le voit maintenant que ce n'est pas le cas. Parce que bon, là, pour le deuxième tour des présidentielles, c'était une face-à-face entre Radjuel et Ravalomanane. Et maintenant, pour les législatives, le combat se fait entre les candidats présentés par Radjuel et les candidats présentés par Ravalomanane. Vous savez, bien sûr, les candidats, ils se présentent avec leur nom, mais finalement, ils se présentent en disant « Votez pour moi parce que je suis le candidat de Radjuel. Votez pour moi parce que je suis le candidat de Ravalomanane. » Donc, c'est un prolongement du duel entre les deux hommes. Et d'ailleurs, on dit ici que cette législative est une espèce de troisième tour.
Si Ravalomanane gagne les législatives, qu'est-ce qui va se passer alors?
Si les candidats de Ravalomanane obtiennent la majorité, ben, ce sera une crise un peu, parce que selon la Constitution, le parti qui a la majorité à l'Assemblée présente le Premier ministre. Et donc, le Premier ministre naturel de la majorité, Ravalomanane, ben, c'est Marc Ravalomanane lui-même. Et ça va être une crise terrible, parce que ce sera une cohabitation impossible entre les deux. Donc ça va être une crise politique, bien sûr, mais aussi une crise pour Madagascar en entier, parce que dans ce cas, je crains fort que tout va se bloquer, quoi. Tout va se bloquer. Ils vont se crocher les pattes et tout. Donc moi, je ne souhaite pas ça. Mais bon, on verra la suite des résultats des élections, des législatives.
Le journaliste Randy Denis était en ligne de la capitale malgache, Antananarive.
Le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. À la console, Sidrak Franklin. Et au micro, Claire Moragibour.
Et Jacques Aristide. Très bonne écoute sur VOA Afrique.
Écoutez, Le Monde Aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.